Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous nous attacherons tout d'abord à détailler le tout nouveau projet de loi contre les séparatismes présenté en Conseil des ministres ce matin et rebaptisé projet confortant le respect des principes républicains.
Et pour en préciser les enjeux, Thomas, invité de la rédaction.
Nous recevrons Alain Sexig, ancien instituteur, inspecteur général de l'éducation nationale et membre du Conseil des sages de la laïcité.
Le début des plaidoiries des parties civiles au procès des attentats de janvier 2015 ont débuté, ces plaidoiries, elles ont débuté ce matin.
Et nous serons en direct depuis la cour d'assises spéciale de Paris. Et puis nous reviendrons sur ce geste rare hier. Deux équipes de football, le PSG et le Başakşehir, décidant de quitter ensemble la pelouse, ouvrant ainsi peut-être la voie à un tournant dans la lutte contre le racisme. Enfin, à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
Voilà, plusieurs alertes depuis quelques semaines, à commencer par celle du ministre de la Santé français, Olivier Véran, et puis par une étude de l'Institut Montaigne à paraître sur la santé mentale des Français face au Covid. Nous allons voir que le problème n'est pas que français, il est italien, il est européen, il est peut-être mondial aussi, avec notre invité, le philosophe italien Franco Berardi. Il a justement travaillé sur ça, sur ce trauma au ralenti qui se joue avec la pandémie et les dangers pour notre psychisme collectif aussi. Il sera avec nous dans une vingtaine de minutes.
Comment afficher sa fermeté absolue contre l'islamisme radical tout en assurant vouloir non seulement éviter l'amalgame et la stigmatisation, mais aussi renforcer le pilier de la cohésion sociale, une véritable gageure pour le gouvernement qui, à l'issue du Conseil des ministres, doit présenter aujourd'hui son projet de loi confortant le respect des principes de la République, selon son nouvel intitulé. Un projet phare du quinquennat d'Emmanuel Macron qui, s'il ne relève d'aucun agenda politique, tient à préciser Matignon, devrait toutefois offrir quelques galons régaliens au chef de l'État dans la perspective de 2022. Antoine Marette, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors ce projet de loi doit répondre à ce qui est devenu l'une des inquiétudes majeures des Français d'un attentat à l'autre, mais dans un souci d'apaisement, plusieurs mots ont été retirés de ce texte, dont celui de séparatisme islamiste, pourtant pointé par le président de la République lui-même dans son discours des Mureaux début octobre. Ce qui n'empêche pas en l'occurrence le Premier ministre Jean Castex d'insister, Antoine, dans un entretien au journal Le Monde. L'ennemi de la République, dit-il, c'est une idéologie politique qui s'appelle l'islamisme radical.
Et pourtant, la gestation pour aboutir à ce texte aura été longue et hésitante. Hésitante d'abord sur le titre, projet de loi contre le séparatisme, puis les séparatismes, puis projet de loi visant à renforcer la laïcité et conforter les principes républicains. Ce sera finalement le projet de loi confortant le respect des principes républicains. Le sujet est très sensible et chaque mot est pesé. Pas d'allusion à l'islamisme dans ces différents titres et pourtant, c'est la cible principale de ce texte. Dans une interview accordée au Monde, tous les problèmes cités par le Premier ministre auxquels ce texte est censé répondre concernent l'islamisme. Et Jean Castex, comme vous venez de le dire Thomas, assume « l'ennemi de la République, c'est une idéologie politique qui s'appelle l'islamisme radical et qui a pour objectif de diviser les Français en deux ». Le projet de loi renforce donc notamment le principe de laïcité dans les services publics. Il crée un délit contre les intimidations, contre les agents publics. Il permet la dissolution des associations visées séparatistes et il lutte contre les atteintes à la dignité humaine en interdisant par exemple les certificats de virginité. La gauche accuse le gouvernement de stigmatiser les musulmans, la droite lui reproche de ne pas aller assez loin dans la dénonciation de l'islamisme, voire de l'immigration. Bref, les débats à l'Assemblée nationale promettent d'être vifs autour de ce projet de loi qui contient en tout une cinquantaine d'articles.
Merci Antoine Marette. Alors ce projet de loi présenté le jour même du 115e anniversaire de la loi de 1905 sur la laïcité comporte une cinquantaine d'articles appelés à combler des lacunes juridiques allant de la haine en ligne au financement des cultes en passant par les associations et l'éducation. À ce titre, une disposition en particulier concerne l'instruction à domicile. Initialement, Emmanuel Macron plaidait pour une interdiction totale de l'école à la maison. Et puis, après avoir vu le Conseil d'État tiquer, l'exécutif a préféré se ranger vers un encadrement plus strict, de sorte, Sarah Ders, que les dérogations resteront finalement possibles.
L'instruction à la maison sera désormais possible en demandant l'autorisation auprès du rectorat au lieu d'une simple déclaration à la mairie ou à l'éducation nationale, indique le ministère. Le principe sera celui de la scolarisation à l'école, avec des dérogations pour la santé, le handicap, la pratique sportive ou artistique de haut niveau, l'itinérance des familles et un critère plus général qui prend en compte toute situation particulière d'un enfant. Les critères d'éligibilité seront donc plus stricts. À chaque demande, les parents devront justifier d'un projet pédagogique et de leur capacité à instruire leur enfant. Ce projet ne pourra être fondé, selon l'entourage de Jean-Michel Blanquer, sur les convictions propres des parents, qu'elles soient politiques, religieuses ou philosophiques. L'objectif du gouvernement est clair, réduire l'instruction à la maison. Cela ne représente en France que 0,5% des familles ayant des enfants en âge d'être scolarisés, soit 62 000 élèves, selon les nouveaux chiffres du ministère de l'Éducation. Il ne faut pas toucher à la liberté d'instruire en famille, car c'est une liberté fondamentale, selon la directrice d'Éduc France. Une liberté, ça ne s'autorise pas, ajoute Axel Girard. Pour elle, il existe déjà un arsenal juridique fort, mais les contrôles des familles ne sont pas systématiques. Ce nouveau régime d'autorisation, conclut-elle, posera un problème de constitutionnalité.
Voilà, et pour poursuivre donc sur cette question, invité de la rédaction aujourd'hui, Alain Sexig, ancien instituteur, ex-inspecteur d'académie et membre du Conseil des sages de la laïcité de l'éducation. Bonjour monsieur.
Bonjour.
On le sait, la politique a souvent tendance à ne jamais dépasser l'état gazeux des mots, les consignes ruissellent, elles finissent par s'évaporer. Quelle est aujourd'hui la réalité sur le terrain? Les enseignants sont-ils suffisamment formés donc à cette laïcité?
Alors, il y a un grand besoin sur ces questions de formation, bien entendu. Elles étaient au cœur de la formation des enseignants au début du XXe siècle. Il faut rappeler que l'école a été laïque avant la République elle-même, puisque la loi de 1905 est arrivée plus de 20 ans après les lois Jules Ferry, qui consacraient le principe de laïcité pour les enseignements et les personnels de l'éducation nationale. Donc ces questions étaient au cœur de la formation de ce qu'on a appelé, à la suite de Péguy, les hussards noirs de la République. Et puis est arrivé un moment, après-guerre, fin des années 50, années 60, où ces questions nous paraissaient tellement derrière nous, réglées, que nous n'en parlions plus. Ça ne figurait plus à la formation des enseignants. Moi, j'ai débuté en 1973, vous voyez, comme instituteur. Ce sont des questions dont nous ne parlions plus, non seulement dans le cadre de la formation, mais même dans nos salles des professeurs, d'une question qui nous paraissait derrière nous, déjà. Une fois l'an, nous nous réunissions à l'appel de nos syndicats pour parler de notamment l'enseignement privé qui, à nos yeux, recevait trop de subsides de l'État. Mais c'était à peu près tout, vous voyez. Alors, depuis, on n'en est pas resté là. Ces dernières années, des efforts ont été faits. Il ne faut pas dire que rien n'a été fait, bien entendu. On a eu la charte de la laïcité à l'école. Il y a des actions de formation qui sont menées. Aujourd'hui encore, le Conseil des sages de la laïcité que vous nommiez organise un cycle de conférences. La dernière aura lieu ce soir même au CNAM en présence du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Nous organisons des sessions de formation à l'école des cadres de l'Éducation nationale à Poitiers, l'Institut des hautes études de l'école et de la formation. Donc beaucoup de choses sont faites, mais tout ça ne serait pas grand-chose, serait même peut-être vain, si les enseignants n'avaient pas le sentiment qu'ils pouvaient réellement s'adosser à leur institution. Et ça a fait défaut pendant des années. Je veux croire qu'aujourd'hui, ça n'est plus le cas.
Il est parfois difficile de comprendre ce qui se cache derrière cette notion de laïcité, cette valeur héritée de la Révolution française, avant d'être liée, vous l'avez dit, au fondement de la République. Et précisément, peut-être, parce qu'elle est mal comprise, la laïcité peut aussi devenir l'objet de toutes les manipulations, d'autant plus dans un contexte, vous l'avez rappelé, là encore toujours changeant. Est-ce qu'au fond, le problème ne viendrait pas de ce que la laïcité, exactement comme la liberté, l'égalité, la fraternité, ne pourra jamais être qu'un idéal?
Alors, il est clair que ce principe ne peut jamais être entièrement appliqué tel quel. Il constitue une idée régulatrice. En même temps qu'un idéal, vous avez raison, tout comme la liberté, l'égalité, la fraternité. Mais c'est une idée régulatrice qui dit quoi? Qui dit, un, séparation, c'est le nom de la loi dont nous fêtons les 115 ans aujourd'hui, loi de séparation des églises, avec un E majuscule, entendu comme religion. Donc, ce que dit cette idée régulatrice, c'est, un, nécessité de la séparation entre les églises et l'État, pas de mainmise de l'État, pas d'intrusion de l'État dans les affaires du religieux, pas de prégnance du religieux dans les affaires de la cité, si vous voulez. Deux, distinction entre l'espace public et la sphère privée, ce qui est ressorti à l'un ou à l'autre. Il y a une distinction. Et trois, c'est la liberté de conscience, la laïcité. Et dans la liberté de conscience, il y a bien entendu la liberté de culte.
Vous rappelez là les grands principes. Il se trouve que nombre de pays ont du mal à saisir tout de même cette spécificité française, donc de la laïcité, qu'ils entrevoient souvent davantage comme un combat idéologique. Et de fait, est-il possible, en fin de compte, de faire de la laïcité un simple cadre juridique et non une doctrine?
C'est un cadre juridique, mais c'est un esprit et une politique. Vous dites qu'ils ne sont pas toujours compris à l'extérieur de nos frontières. J'observe toutefois qu'on en parle de plus en plus. Le terme laïcité a tendance à s'imposer au détriment de secularism, qui était le terme employé dans les pays anglo-saxons, par exemple. D'autres pays se tournent vers notre modèle. Il intéresse quand en Angleterre, on se retrouve un beau jour avec des attentats perpétrés par des jeunes gens qui ont grandi sur les bancs de l'école anglaise. Eh bien, on se dit, oui, il y a peut-être quelque chose à regarder du côté du modèle français. Ça a été le cas dans d'autres pays d'Europe également. Alors, oui, on peut avoir du mal à le comprendre, mais c'est un sociologue américain, Mark Lilla, qui parle de la grande séparation entre le religieux et le politique, qui irrigue l'action de toutes les sociétés démocratiques, tous les pays démocratiques. La laïcité, c'est la forme française spécifique qu'a pris cette séparation du religieux et du politique, mais cette séparation est à l'œuvre, et heureusement, dans bien d'autres pays.
Merci Alain Seksig, ancien instituteur, je le rappelle, ex-inspecteur d'académie et donc membre du Conseil des sages de la laïcité, l'éducation, d'avoir répondu à notre invitation. Livre d'or au musée d'Orsay, drapeaux en Berne à l'occasion d'une journée de deuil national. La France salue sobrement aujourd'hui la mémoire de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, décédé il y a tout juste une semaine et salué par beaucoup comme un modernisateur et un Européen convaincu. Ses talents d'avocat comme sa brillante plaidoirie pro domo lundi dernier devant le tribunal correctionnel de Paris n'y auront rien changé. Hier, le parquet national financier a requis 4 ans de prison, dont 2 fermes contre Nicolas Sarkozy, accusé d'avoir cherché à obtenir d'un haut magistrat, Gilbert Azibert, des informations sur des affaires judiciaires en cours, en échange d'un coup de pouce professionnel à son avocat et ami proche Thierry Herzog. Les mêmes peines ont d'ailleurs été requises pour les 2 autres prévenus. À l'issue de près de 5 heures d'un réquisitoire méthodique et aride, le procureur a estimé qu'on ne pouvait pas admettre qu'un ancien chef d'État oublie la République, quoi qu'il en soit. Nicolas Sarkozy, premier ex-président à comparaître lors d'un procès, est donc devenu également depuis hier le premier ancien chef d'État menacé d'une peine de prison ferme. Précisons tout de même que les peines inférieures ou égales à 2 ans sont rarement exécutées, la justice les remplaçant le plus souvent par des travaux d'intérêt général. Le verdict est attendu jeudi soir. Et puis s'agissant de l'enquête sur un possible financement libyen de la campagne présidentielle victorieuse de Nicolas Sarkozy en 2007, on a appris hier qu'après Claude Guéant, Brice Hortefeux avait à son tour été mis en examen pour association de malfaiteurs et financement illégal de campagne électorale. Les 4 policiers mis en examen pour le passage à tabac du producteur Michel Zecler bénéficieront de la protection fonctionnelle, ou dit autrement, leurs frais d'avocat vont être pris en charge. Rappelons que cette protection est accordée lorsqu'un fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales pour une faute de service commise dans l'exercice de ses fonctions, à la condition toutefois qu'il n'ait commis aucune faute personnel incompatible avec le service public, ce qu'avait pourtant pu laisser entendre les propos du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en déclarant que les agresseurs de Michel Zecler avaient, je cite, déconné. Après les lourdes réquisitions du parquet antiterroriste prononcées hier à l'encontre de la plupart des 14 accusés jugés au procès des attentats de janvier 2015 jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité pour 2 d'entre eux, les plaidoiries des parties civiles se poursuivent Aujourd'hui, Florence Sturm, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct du tribunal de Paris. En l'occurrence, la première plaidoirie ce matin concernait Christophe Rommel, le seul à comparaître libre à ce procès et contre lequel, Florence, le parquet a requis 5 ans d'emprisonnement.
Oui, Christophe Rommel est le plus jeune des accusés présents, 25 ans au moment des faits, celui dont on a que peu parlé car il comparaît libre sous contrôle judiciaire, poursuivi pour association de malfaiteurs mais sans la qualification terroriste, et son avocate demande qu'on lui laisse cette liberté. Clémence Witt parle d'une voix douce mais déterminée et avec humilité, ajoute-t-elle face à la cour. Premier mot pour les victimes, devant ces vies brisées, mutilées, la défense s'incline. Oui, poursuit-elle, Christophe Rommel est coupable d'avoir été le conducteur, l'accompagnateur, le bon copain, la petite main de Willy Prévost, mais il n'est coupable que de cela. Il n'existe aucun lien entre lui et Koulibaly, cet homme qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais croisé. Vous n'êtes pas là pour écrire l'histoire, mais pour juger des hommes, ajoute l'avocate, et c'est en substance le même message que va délivrer sa consoeur Beryl Braun pour la défense de Michel Catineau. Ce Belge de 68 ans, doyen des accusés, crâne dégarni, cheveux gris qui tombent dans le cou, un statut d'invalide à la suite d'une vieille agression. Tête baissée, comme absent des débats, lui dont la seule et unique passion reste le jeu. Michel Catineau, plutôt connu pour trafic de stupéfiants et dont l'accusation a lié l'implication à celle du garagiste turc Metin Garasular. Tous deux accusés d'avoir contribué à fournir des armes à Hamedi Koulibaly, les avocats généraux ont requis 15 ans de réclusion criminelle à son encontre. Alors c'est vrai, il a conservé ses deux vieux fusils rouillés à son domicile qui ont fini entre les mains de voyous de Charleville-Mézières, plaide l'avocate. Elle regarde tour à tour la cour et la salle, dénonce le vide du dossier. Au parquet, on n'a pas de preuves, mais on a des idées. S'attarde sur les contours et la jurisprudence de l'association de malfaiteurs terroristes qu'elle demande au juge d'écarter. Le début du propos aurait pu être aussi sa conclusion. Pardon, mille fois pardon, ce serait tellement plus facile de vous dire que c'est sa faute, car la souffrance est trop grave et le crime est trop grand.
Merci Florence Sturm en direct du tribunal de Paris ainsi qu'à Jérémy Tuile pour les moyens techniques.
12h48, 47 même encore, hein, sur France Culture, la suite de votre journal. Thomas Cluzel.
L'Allemagne, pourtant perçue comme la bonne élève de l'Europe au printemps dernier, a visiblement toutes les peines désormais à faire face à une deuxième vague de Covid-19. Ce matin, Angela Merkel a appelé à de nouvelles restrictions jusqu'à la mi-janvier dans l'ensemble des régions où les mesures existantes se révèlent insuffisantes. C'est le cas notamment de la Bavière qui entre en confinement aujourd'hui. Idem pour la Saxe à partir de lundi prochain. Là-bas, le taux d'incidence y est le plus élevé du pays. Et puis cet État-région d'ex-Allemagne de l'Est est emblématique à plus d'un titre puisqu'il figure parmi ces zones aujourd'hui les plus touchées et par ailleurs bastion de l'extrême droite sensible aux thèses complotistes et opposées aux restrictions. Alors faut-il y voir une simple coïncidence ou une véritable corrélation? Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes en direct de Berlin. Alors pour bien préciser les choses, rappelons que sur l'échiquier politique, l'AFD est en réalité le seul parti à avoir clairement affiché son scepticisme. Ses députés ont même rechigné dans l'enceinte du Parlement à porter le masque. En revanche, et au-delà, cette fois-ci Ludovic, des affichages partisans, c'est vrai que le mouvement des anti-masques aura toujours été assez important, outre-Rhin, et en particulier dans la région du Bade-Württemberg, laquelle a d'ailleurs placé ce matin le mouvement des anti-masques sous surveillance.
Oui, de son nom exact, Querdenken 711, ce mouvement des anti-masques qui a essaimé aujourd'hui dans toute l'Allemagne avec une myriade de groupes locaux, est né à la mi-avril en réaction aux premières mesures de restriction à Stuttgart, en effet la capitale du Bade-Württemberg, alors l'une des régions les plus touchées par l'épidémie. Ce mouvement des Querdenker, traduisait les libres penseurs ou ceux qui pensent autrement, est un mouvement de démocrates, insiste son fondateur, Michael Ballweg, un ingénieur informaticien qui a très tôt relayé sur la toile des vidéos mettant en doute la dangerosité du virus, mais plutôt que conspirationniste, l'homme a toujours préféré mettre en avant l'atteinte aux libertés, la mise à mal de la constitution allemande. C'est ainsi qu'il a pu rassembler des manifestants au profil très hétéroclite, des libéraux, des religieux, de la gauche, de la droite, des éléments plus radicaux, des citoyens du Reich, des nostalgiques de l'Empire allemand, qui nient tout simplement l'existence de la République fédérale, et des sympathisants du parti d'extrême droite AFD. Ballweg n'a rassemblé qu'un 1,2% des voix dans sa course toute récente à la mairie de Stuttgart, mais c'était un premier essai et la preuve que ce mouvement veut s'installer durablement dans la vie politique allemande. Après 8 mois d'existence, et même disons déjà depuis l'été, Thomas, le mouvement s'est radicalisé à mesure que le pays déconfinait. En fait, ceux qui protestaient contre les restrictions n'ont plus trouvé de sens à manifester. Seuls les éléments les plus extrémistes sont restés, d'où ce matin ce placement sous surveillance par les services de renseignement. Ce mouvement des anti-masques s'est affaibli à l'ouest, mais renforcé à l'est, là où précisément le parti alternatif pour l'Allemagne est le plus fort. Vous l'avez signalé, ce bastion de la Saxe, qui compte aujourd'hui 7 des 15 plus importants foyers de coronavirus en Allemagne. La Saxe, où l'AFD est encore plus ancrée dans les petites villes, les campagnes, pas dans les grandes agglomérations. Et c'est justement dans ces zones rurales, là où ces anti-masques prospèrent, avec l'assentiment de ce parti politique, que l'on compte les districts les plus touchés par l'épidémie.
Merci Ludovic Piétenu en direct de Berlin. À 3 semaines de la rupture définitive entre Londres et l'Union européenne et après des mois de pourparlers sans progrès sur les sujets qui fâchent, le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont prévu de se retrouver aujourd'hui à Bruxelles pour un rendez-vous de la dernière chance face à la menace accrue d'un échec aux lourdes conséquences économiques. Et tandis que l'urgence semble concentrer les esprits, voilà qu'une lueur d'espoir semble se profiler à l'horizon. Hier déjà, Boris Johnson a fini par abandonner son projet de loi menaçant de ne pas respecter le premier accord signé l'an dernier, ce qui aura notamment permis aux deux parties de s'entendre sur les dispositions douanières spécifiques à l'Irlande du Nord. Enfin ce matin, le ministre d'État britannique Michael Gove a lui déclaré qu'il y avait de la place pour un compromis sur la pêche avant d'ajouter « la Grande-Bretagne peut se montrer généreuse sur l'accès à ses eaux ». L'Union européenne doit s'attaquer aux émissions de gaz à effet de serre des États membres les plus riches et renforcer son soutien aux plus pauvres pour une transition écologique juste. Voilà ce qui ressort d'une étude menée par Oxfam et de laquelle il ressort donc que les émissions polluantes des Européens à revenus faibles et moyens ont baissé entre 1990 et 2015, tandis que celles des 10% les plus riches ont augmenté, ou quand la lutte contre les inégalités en matière d'émissions de CO2 apparaît essentielle pour atteindre le nouvel objectif climatique de l'UE. Véronique Robérotte a joint au téléphone Armel Lecomte, responsable du plaidoyer climat à Oxfam France.
Les raisons, elles sont multiples. D'abord, c'est que pendant ces 25 ans, donc depuis 1990 jusqu'à 2015, la période qu'on étudie, les inégalités économiques, elles se sont creusées au sein de l'Union européenne. Et donc finalement, on le sait, plus on gagne d'argent, plus on pollue. Et comme les inégalités économiques se sont creusées, eh bien les populations les plus pauvres ont, elles, vu une baisse de pouvoir d'achat, leurs émissions baisser pendant cette période. Alors que en parallèle, les revenus des plus riches ont continué à augmenter. Il y a aussi une question en fait liée notamment au transport. On sait que le transport, c'est un des secteurs les plus polluants. Ça représente environ un quart des émissions de l'Union européenne. Et les populations les plus riches, elles, ont tendance à davantage prendre l'avion, qui est un secteur très très polluant, ont davantage l'occasion d'acheter des voitures polluantes type SUV, qui aussi polluent énormément. Et donc, ça explique ces disparités au sein de la population européenne. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui l'Union européenne doit proposer un Green Deal qui soit juste et qui demande à la fois des contributions des citoyens européens les plus riches en taxant par exemple l'aviation, en taxant les transports polluants type SUV et dans le même temps investir massivement dans les secteurs peu polluants, dans les transports publics, dans la rénovation des bâtiments qui peuvent bénéficier aux plus pauvres en Europe et leur offrir des alternatives.
Les joueurs du PSG et leurs adversaires du Başakşehir n'étaient pas rentrés sur le terrain depuis plus d'un quart d'heure hier soir lorsqu'ils ont soudain fait basculer la compétition, en l'occurrence leur match de Ligue des Champions, dans un scandale à la résonance mondiale après qu'un arbitre délégué a été entendu désignant l'entraîneur adjoint Pierre-Achille Webo comme le noir en roumain. Negru, il a aussitôt déclenché la colère des 22 joueurs qui de conserve ont décidé de quitter la pelouse pour ne plus revenir. Une décision jamais vue au plus haut niveau dans un monde du football généralement taxé de laxisme, voire d'indifférence sur ce sujet. Alors ce match de la 6e journée du groupe H de l'épreuve reprendra ce soir, là où il s'est arrêté la veille, à la 14e minute, mais cette fois-ci sans le corps arbitral roumain. La Roumanie, d'où nous appelle notre correspondant Paul Kosigian.
un immense cauchemar. Voilà ce que décrit aujourd'hui le quotidien généraliste Adevarul. Cela aurait dû être une délégation de rêve pour la brigade roumaine, regrette l'éditorialiste, qui relève qu'à l'arbitre Sébastien Coltescu a commis un suicide professionnel. Pour illustrer le désarroi des amoureux du football, la presse sportive publie la une de l'équipe où apparaît le nom du fautif. ProSport cite également le communiqué de la Fédération roumaine de football qui attend le rapport de l'UEFA tout en se distanciant fermement de toute action ou déclaration à connotation raciste ou xénophobe. L'ensemble de la presse en ligne reprend les excuses sur Twitter de l'arbitre auprès de l'UEFA. « Je n'avais pas l'intention d'être raciste », écrit-il. « Dans un tel contexte, les gens peuvent être mal compris. J'espère que vous me comprendrez ». Le ministre roumain des Sports a réagi en direct à la télévision pour présenter ses excuses au nom de l'ensemble du peuple roumain. « Ce malheureux incident, dit-il, ne nous représente pas ». Pourtant, plusieurs voix célèbres en Roumanie prennent la défense de l'arbitre. Ilina Stas, par exemple, le champion roumain de tennis, affirme ne pas voir où est le problème. « Nous sommes des blancs pour eux, alors on va les appeler comment, nous ?» L'arbitre n'a pas eu l'intention d'insulter. Et il ne s'agissait pas d'un joueur avec un numéro dans son dos facilement détectable. Alors, en roumain, c'est plus rapide de dire le noir, conclut Nastas, déjà accusé de racisme en 2017 pour des propos tenus à l'encontre de l'américaine Serena Williams.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par un peu de neige à l'est, de la grisaille au centre et de la pluie à l'ouest. Seul le pourtour méditerranéen bénéficiera d'un temps ensoleillé. Quant aux températures, elles afficheront entre 2 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Nicolas Pommé à 18h. Vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.